1496, il avait passé plus de 10 ans, et il était à Bologne et à Padoue. Il a été l'ami de Domenico de Navarre, qui était un néoplatonicien, et donc Copernic était à Rome lors du jubilé en 1500, et je crois que toute la chrétienté est allée à Rome, et donc beaucoup d'Espagnols et de Portugais, et on ne parlait que de ça en Espagne et au Portugal, on ne parlait que de l'Amérique. Et donc, il me semble que Copernic a dû se dire, mais les grands livres de l'Antiquité qui décrivent la géographie sont faux. Et donc, si la géographie est fausse, mais alors aussi l'astronomie peut être fausse. Donc, il faut réfléchir sérieusement aux bases. Moi, je crois que c'est à partir de ce genre de réflexion que est partie la révolution de l'astronomie.
Mais alors, lorsqu'on examine cette période de Jacques Blemont, on est tout à fait frappé de voir qu'effectivement, il y a une sorte de volonté ou de besoin, simplement, de reconsidérer le monde autrement, parce qu'effectivement, le monde se révèle tout à fait différent de ce que l'on croyait jusqu'ici. Cela passe en même temps par des conceptions du monde qui, nous, peuvent nous sembler assez bizarres, puisque vous faites référence au platonisme, à l'école platonicienne de Florence, en gros, que ce soit Pic de la Mirandole, surtout le plus important qui est Marcille Ficin, etc., et qui pour nous, je dirais d'une certaine façon, devrait apparaître comme la chose du monde la plus irrationnelle. Je veux dire, là, le mélange de philosophie tout à fait rigoureuse, avec en effet des tentations de magie, avec l'interprétation des songes, avec l'astrologie, avec l'alchimie, enfin, je veux dire, tout ce que nous avons l'habitude de considérer comme n'étant pas de la science. Et très curieusement, c'est ce courant-là qui va donner le branle, en fin de compte, à cette sorte de rebond, ou de fait que la science se remet en marche réellement, et finalement, on va être à l'origine de la science telle que nous l'entendons aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, on peut se dire, en lisant votre livre, que les origines de la science, disons, sont très impures.
Tout à fait, je crois vraiment ce que vous venez de dire, impures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons commencé notre entretien, justement en parlant de pulsions. Il y a une influence gigantesque des idées fausses sur la marche de l'humanité, et en particulier sur la science. L'idée fausse, c'est-à-dire des idées dont la suite révèle qu'elles n'étaient pas fondées. Et effectivement, nous voyons dans le bric-à-brac de Marcille Ficin, qui a été immensément admiré par tous les contemporains, nous n'y voyons que des fariboles. Mais pourtant, quand on voit que l'ensemble de esthétique, mais aussi toute la pensée du XVIe siècle, avec effectivement son mélange d'intérêt pour la magie, pour les symboles, pour la pensée analogique, qui est totalement anti-scientifique, eh bien cette pensée analogique, finalement, c'est elle qui va en effet se révéler, avec l'intérêt de tout le monde pour la magie, un ferment puissant dans l'avancement des sciences. Je n'appelle pas ça du tout un paradoxe, puisque pour moi, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la marche normale de la démarche intellectuelle. Et si vous voyez, par exemple, la marche de l'astronomie, mon livre attaque à ce moment-là, disons, la révolution de l'astronomie au XVIe siècle, qui est une des grandes ruptures. Bon, cette révolution de l'astronomie, elle a été causée par une institution, parce que le livre de Copernic était un livre, finalement, qui était une tentative amusante, qui a été considérée comme un jeu par la plupart des contemporains, un jeu brillant, qui consistait simplement à prendre le contre-pied du grand livre d'astronomie de l'Antiquité, l'Almageste, que Copernic voulait imiter. Mais ça restait un jeu jusqu'au moment où il y a eu une institution. Et cette institution, tout à fait vraiment inattendue, elle a été fondée par un petit pays, le Danemark, qui a donné à un homme de génie les moyens de la mesure. Le roi de Danemark, Frédéric II, a donné à l'astronome Tycho Brahe, qui était un aristocrate danois, assez d'argent pour construire le premier grand observatoire d'astronomie au monde et de maintenir son fonctionnement pendant 22 ans. Cette fondation a permis à Tycho Brahe de mesurer le mouvement planétaire avec une précision qui était 10 fois supérieure à la précision de l'Antiquité, c'est-à-dire, disons, de la minute d'arc. Et c'est cette institution, qui n'a duré que le temps de la faveur de Tycho Brahe, qui a donc mis en place ce que nous appellerions une banque de données, qui contenait les mesures planétaires pendant 20 ans. Elles sont tombées entre les mains d'un autre homme de génie, Johannes Kepler, qui a su déduire des mesures de Tycho Brahe la théorie de trajectoire de Mars. Kepler a livré ce qu'il appelait la guerre contre Mars, et c'est une des parties fondamentales, je crois, de mon livre, où j'ai analysé comment, en suivant très strictement d'ailleurs le récit de Kepler lui-même, dans l'Astronomia Novia, la démarche, à la fois très rationnelle et en même temps sous-tendue par une puisante imagination créatrice, puisqu'il ne faut pas oublier que Kepler a créé des mots, il a créé comme satellite, par exemple, comme inertie. Et il faut bien voir que là, nous touchons au fond de la démarche scientifique, c'est le langage. Je crois qu'un des grands, les grands scientifiques se sont posés des questions de vocabulaire, puisqu'ils inventaient des concepts, et que ces concepts, il fallait les nommer. Je crois que là, c'est donc dans l'atmosphère esthétique de Fissin qu'il faut chercher la source de l'inspiration de Kepler. Et là, nous avons un exemple tout à fait caractéristique de ce mélange que vous avez indiqué entre le rationnel et puis aussi des sources impures.
Lorsque vous décrivez l'action de Tycho Brahe et de Kepler, et effectivement c'est la fondation, si l'on peut dire, à partir de laquelle c'est bâti notre astronomie. Bon, vous faites ressortir, comme pour Tycho Brahe, il y avait effectivement l'intervention du roi du Danemark, en fin de compte, qui lui a permis de travailler, mais ensuite le roi du Danemark meurt, et ce qui est tout à fait intéressant du point de vue institution, c'est que Tycho Brahe va travailler ensuite pour l'empereur d'Autriche, et que Kepler lui-même va travailler pour l'empereur d'Autriche, et que jusqu'à la mort de Rodolphe II, c'est ce qui va lui permettre, je dirais, de travailler au moins avec une certaine tranquillité. Mais en même temps, ce qui est passionnant, c'est de voir que Tycho Brahe, je dirais, reste dans le cadre de l'astronomie ancienne. Kepler est celui quand même qui accomplit la rupture et qui, à l'intuition de Copernic, donne effectivement une formulation que nous pouvons appeler aujourd'hui scientifique, c'est-à-dire les lois de Kepler. Et avec cette révolution, en fin de compte, qui est l'introduction de la mathématique en tant que telle, comme formatrice même de la science. Et ce qui est passionnant là aussi, lorsqu'on reprend les manuscrits de Kepler, c'est de voir comme cette révolution, en fin de compte, il l'appuie sur des intuitions imaginaires qu'il va chercher chez Proclus, etc., c'est-à-dire chez les grands néoplatoniciens. Comme si, en fin de compte, là aussi, la naissance de la science, car je pense qu'il est inimaginable aujourd'hui d'avoir une science qui ne soit pas d'expression mathématique, en fait, trouve sa source, je dirais, là aussi, dans un domaine totalement non rationnel.
Tout à fait, je crois que c'est vraiment le fondement des choses. La science n'est pas une activité, et n'a jamais été, je crois, une activité qui repose uniquement sur la raison. C'est comme ça que notre entretien a commencé, et là on voit vraiment un exemple avec Kepler qui est parfaitement conscient de ça. Lui, il le sait, ça. Il sait qu'il y a une partie de lui qui utilise des données précises obtenues par Tycho Brahe, et que ces données sont les contraintes absolument infranchissables sur lesquelles il s'appuie. Mais d'autre part, à l'intérieur de ces contraintes, il laisse son esprit se laisser impressionner par toute une série d'images et de représentations qui proviennent de diverses sources, aussi bien de l'inconscient que de l'analogie, que de l'esthétique. J'ai parlé d'analogie tout à l'heure. Eh bien, c'est Kepler, dans un passage absolument admirable, part de la discussion de la trajectoire du Soleil autour de la Terre, et où il démontre d'une façon véritablement stupéfiante qu'il est nécessaire d'introduire dans la théorie de la trajectoire solaire des éléments disons qui avaient été introduits par les astronomes antiques, mais qui ne rendaient pas la trajectoire circulaire. Il part donc d'une discussion purement technique de la trajectoire solaire pour peu à peu, en incorporant dans ses idées une analogie au magnétisme qui avait été, analysé dans un très célèbre livre qui venait de paraître, Le Démagnété de Gilbert, qui a fondé le magnétisme terrestre, avec un emprunt aux idées du magnétisme de Gilbert, Kepler dans son modèle, contraint par les mesures de trajectoire, il rentre une série d'idées qui peu à peu l'amènent à quelque chose qui ressemble beaucoup à la gravitation universelle. Et donc là, on voit très bien l'influence de représentations analogiques, totalement non scientifiques, non rationnelles, disons. Et j'ai tort de dire non scientifique, je dirais plutôt non rationnel, parce qu'elles sont scientifiques. L'analogie peut être, malgré tout, d'une manière ou d'une autre, utilisée. C'est pour ça que je me suis longuement... j'ai beaucoup parlé de Kepler, et parce que d'abord je trouve un homme admirable, et c'est peut-être celui pour lequel j'ai eu le plus de sympathie dans mon livre, mais là on voit vraiment comment fonctionne le progrès de la science. C'est-à-dire par une incorporation volontaire et parfaitement consciente de toute une série de matériaux composites.
On parlait tout à l'heure de Fissin et de l'importance qu'il avait eue donc sur la naissance de la science en tant que telle, de la science moderne en fin de compte à l'origine. Et il y a une question que je me pose, c'est de dire, on dit ben, finalement effectivement il n'était pas du tout scientifique, il avait des lubies comme par exemple la magie, etc. Mais d'une certaine façon, est-ce que du point de vue au moins de la pulsion justement, puisque vous vous serviez de ce mot, est-ce que cet intérêt pour la magie et la magie opératoire, lorsqu'il s'agit de Fissin, n'est pas quelque chose qui frayait la route à la science? C'est-à-dire réintroduire cette idée, parce que la magie, d'une certaine manière ou d'une autre, ça en revient à manipuler les choses, et donc à pouvoir avoir une action sur elles. Et donc est-ce que ça n'a pas frayé la route à cette idée qu'en fin de compte, l'homme pouvait avoir une action sur la nature?
Oui, là vous posez une question tout à fait passionnante, et je ne suis pas sûr d'être capable de vraiment de dire quelque chose d'intelligent là-dessus. C'est tout à fait exact qu'il y a chez les néoplatoniciens et chez Fissin l'idée de la magie opératoire, et qu'elle peut-être qu'on peut, effectivement, que l'homme peut agir sur la nature. Mais malgré tout, il me semble que c'était une idée qui était encore assez embryonnaire. J'ai tout de même le sentiment, c'est qu'un sentiment peut-être, que l'idée que l'homme peut vraiment agir sur la nature, c'est tout de même une idée qui n'a pas paru avant le début du XVIIe siècle. Et que peut-être a-t-elle été accélérée par le mouvement des idées au XVIe siècle, mais il me semble malgré tout que jusqu'au XVIe siècle, y compris du temps de Ficin, l'homme ne s'intéresse pas à l'action sur la nature, il s'intéresse à son rapport à Dieu. Le point essentiel, c'est pour l'homme, c'est son salut. Et donc, agir sur la nature, eh bien finalement, c'est pas intéressant. Et donc, la plupart des intellectuels, et l'Église catholique regroupe pratiquement tous les intellectuels, eh bien, ils vivent dans une relation à la nature qui est une relation religieuse. Et donc, agir sur la nature, c'est pas la peine, puisque n'importe comment, ça ne sert à rien, puisque la seule chose que l'homme doit faire, c'est son salut. Et donc, quand on parle de magie, eh bien, on n'est pas très loin de l'hérésie. Et ce n'est pas un hasard si Luther est apparu, disons, dans les années 1510-1520, après l'explosion de la découverte de l'Amérique. Lui aussi, il fait partie du séisme. Il me semble que, la magie à la Ficin a été peut-être... effectivement, à amener le courant ésotérique, alchimique, des gens à essayer de, je ne dirais pas agir sur la nature, mais simplement trouver des avantages, c'est-à-dire, par exemple, trouver la pierre philosophale, faire de l'or. Et donc, faire de l'or, c'est pas agir sur la nature, c'est agir sur sa destinée, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, j'ai du mal à croire qu'il y a eu, à ce moment-là, une idée que l'homme pouvait agir sur la nature. Je ne crois pas trop ça. Il y avait une trop grande emprise de la religion.
Non, mais je le prends, si vous voulez, au sens où honnête homme s'en sert. Oui. C'est-à-dire non pas en disant qu'il y a filiation directe,
oui,
mais que d'une certaine manière, ça préparait les esprits.
Ah oui, mais ça, je suis à fait d'accord, puisque nous retrouverons n'importe comment l'influence énorme de l'alchimie sur Newton. Ça, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. Là, il y a eu un courant alchimique qui a existé et qui a été certainement relancé par le néoplatonisme.
Passer une nouvelle étape, si vous le voulez bien, Jacques Blamont, nous nous étions arrêtés à Kepler. J'aimerais bien qu'on parle un peu de Galilée. Et parce que là aussi, Galilée, on nous le présente comme le martyr, bien entendu, de la science, martyr pour ses opinions astronomiques. Je dirais que finalement, lorsqu'on va y regarder de près, on s'aperçoit que Galilée est bien un bien plus mauvais astronome que Kepler, par exemple, sur lequel il est finalement en retard. Et que ce qui est peut-être le plus intéressant chez Galilée, je dirais, c'est beaucoup plus justement l'aspect ingénieur. C'est-à-dire quelqu'un qui... et l'aspect physicien. C'est-à-dire quelqu'un qui, lui, alors là, s'inscrit justement dans cette idée qu'on peut décrypter la nature en un langage mathématique, il le dit, à la suite de Kepler, d'ailleurs, et que, d'une certaine façon, pour le coup, on peut commencer à avoir une négociation ou une action sur la nature, dans la mesure où on commence à la comprendre et donc où on commence à en pénétrer les ressorts.
Oui, après avoir traité, la révolution de l'astronomie, j'ai effectivement traité la révolution de la mécanique. Et alors, moi, je crois que, selon tout à fait la ligne que vous venez d'indiquer, ce qui s'est produit à partir de la fin du XVe siècle, tout le courant du XVIe, c'est l'artillerie qui s'est développée. Et le développement de l'artillerie a été spectaculaire, et un développement technique, l'artillerie a trouvé beaucoup de clients, et un marché considérable. Or, toute l'Italie était entre les mains de condottières qui utilisaient beaucoup de canons. Et ces canons ne marchaient pas très bien, mais on voit toute une série de livres qui sont écrits au temps de courant du XVIe siècle, que j'ai brièvement mentionné, où on voit des gens très importants essayer d'améliorer le canon. Et des intellectuels, des scientifiques essayer d'améliorer le canon en essayant de calculer les trajectoires. Et donc là, il y a un terreau très porteur, et qui est donc un terreau italien lié aux universités et lié au pouvoir. Mais il me semble que c'est peut-être la thèse la plus nouvelle de mon livre, c'est effectivement tout ce qui a entouré Galilée. Moi, je vois Galilée d'une façon tout à fait semblable aux autres savants, c'est-à-dire je le vois dans le cadre d'une institution. Et cette institution, elle peut étonner. Pour cela, il faut comprendre le mouvement intellectuel du XVIe siècle. Le mouvement intellectuel du XVIe siècle, il n'y a rien à faire. La chose importante au XVIe siècle, c'est la réforme. Et il ne faut pas oublier, même quand on parle de science, que c'est tout de même l'Église catholique qui a été et qui a regroupé tous les intellectuels pendant 2000 ans en Europe. Et donc, le grand mouvement intellectuel de la Renaissance, du XVIe siècle, c'est la réforme et par contre-coup, la réaction de l'Église à la réforme, c'est-à-dire la contre-réforme. Et la contre-réforme qui a été menée par des papes violents, puissants, agressifs et d'ailleurs admirables de leur point de vue, elle a mis en place toute une série de moyens d'action. Et parmi ces moyens d'action, il y a eu ce que j'appelais l'armée de secours, c'est-à-dire la Compagnie de Jésus. Et la Compagnie de Jésus a été le fer de lance de l'intellectuel de la contre-réforme. Et Saint Ignace, fondateur de la compagnie, a imaginé que c'était avant tout sur les âmes qu'il fallait agir, donc il fallait mettre en place un système d'éducation par des collèges. Et ces collèges devaient être couronnés par un grand collège où tous les autres, les professeurs seraient formés, qu'il a appelé le Collège romain, qui a existé à partir, mettons, de 1550, et qui est devenu le centre de l'activité intellectuelle de l'Église catholique, avec tout ce que ça signifie d'ailleurs de répulsion et d'attraction. Parmi les fondateurs du Collège romain, il y a eu des gens extrêmement hardis, en particulier un astronome qui s'appelait Schlüssel, c'est-à-dire on l'appelait Clavius, qui ont eu l'idée que la religion, en particulier enfin, l'Église catholique, devait se moderniser. Il y avait un grand pragmatisme chez les jésuites, l'idée que... opératoire, qu'il fallait aller vers les gens, vers les choses, et d'avoir une philosophie pragmatique. Et cette philosophie pragmatique, eh bien, devait se juger par son succès. Inutile de dire que ça, c'est une idée nouvelle. C'est là où on voit apparaître effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que l'homme peut agir sur la nature. À mon avis, c'est une idée qui a été propulsée par les jésuites, et c'est un vrai paradoxe, là. Et sans doute, ces gens se sont trompés de leur point de vue. Parce que ils ont eu l'idée qu'ils pouvaient avoir une vue moderne permettrait de sauver les choses, et que cette vue moderne, eh bien, elle engloberait aussi bien l'artillerie que la découverte de l'Amérique, en fait tout ce qui est en train de se passer, et surtout le machinisme qui est plutôt, je n'ose pas dire le machinisme, je vois dire ça, la machinerie. C'est-à-dire le XVIe siècle a été extrêmement inventif au point de vue des machines, et contrairement à aux deux siècles qui ont suivi, c'est à ce moment-là qu'on a inventé la plupart des machines petites et grandes qui ont servi au XVIIe et au XVIIIe siècle, et en particulier on a vu le développement des moulins à eau, des moulins à vent. On parle toujours des moulins à vent de Don Quichotte, mais on fait une grosse erreur. Don Quichotte là-dedans, quand il attaque les moulins à vent, il n'attaque pas des chimères, il attaque le modernisme. Le moulin à vent, dans l'histoire de Cervantes, c'est l'invasion de la machine moderne qui menace la chevalerie. Et donc, c'est de ce point de vue-là, c'est très symbolique. Alors, il y avait donc un mouvement de la machine, il y avait l'artillerie, et tout ça, les jésuites ont voulu l'incorporer, puisque eux, ils étaient tout à fait liés au monde. Et donc, il y a eu une fermentation scientifique au Collège romain, et le résultat, ça a été d'ailleurs la création du du grand système d'éducation européen qui s'est répandu à partir du XVIIe siècle dans les collèges, et d'ailleurs la France est, de ce point de vue-là, jésuite. Tous nos grands écrivains ont été formés dans les collèges jésuites à partir du XVIIe siècle, et surtout les scientifiques. On peut dire que j'ai écrit que 80% des professeurs de mathématiques vers 1620 avaient été des élèves directs de Clavius, en Europe, sur toute l'Europe. Donc là, vous voyez une action énorme, qui était totalement occultée par les historiens, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin, c'est un fait, ce collège a existé, il a eu une très grosse influence. Et Galilée lui-même, qui n'était pas jésuite, a été profondément influencé par le collège romain. Ceci est bien démontré par la publication récente de plusieurs livres d'un savant américain, William Wallace, qui a démontré que les manuscrits de Galilée, dont on ne comprenait pas très bien ce que c'était, des manuscrits de jeunesse, étaient en réalité la copie des notes de cours du collège romain qui lui ont été données directement par Clavius. Et toute la pensée de Galilée découle de ces notes de cours. On est là en présence d'une appartenance à une institution, à sa périphérie. De même que Kepler n'a jamais mis les pieds dans l'observatoire de Tycho Brahe, et pour moi, il fait tout de même partie de cette institution, ce que j'appelle finalement un membre non résident, eh bien, Galilée est un membre non résident du Collège romain. Et toute sa pensée, aussi bien, vous l'avez dit très justement, d'ingénieur, influencé par le marché, parce que Galilée avait d'énormes besoins d'argent et qu'il était à la recherche de quelques sous. Et donc, aussi bien ingénieur que physicien, il fonctionnait tout à fait dans le système jésuite. Et bon, alors ça correspond à la première phase de sa vie où Galilée était un homme rationnel, ce que j'ai appelé lui à ce moment-là, lui est un homme du chiffre. Et puis alors il lui est arrivé quelque chose tout à fait inattendu, c'est qu'il a fait une gigantesque découverte. Et cette découverte est très très simple. Il a appris qu'il y avait des lunetiers hollandais qui avaient mis au point une lunette d'approche qui grossissait à peu près 3 et qui pouvait servir aux militaires. Et il a eu l'idée de prendre cette lunette et de regarder le ciel avec. Cette idée que d'autres ont eue d'ailleurs, mais sans vraiment parvenir à grand-chose, a transformé sa vie. Mais il faut bien comprendre que Galilée était avant tout un très très grand expérimentateur. Et ce qu'il avait pu faire en mécanique, consistait essentiellement à avoir une nouvelle manière de concevoir la vitesse, c'est ça son grand apport à la science, à la mécanique, c'est ce qu'il avait fait dans la première période de sa vie, dans ses 45 premières années, était véritablement rationnel. Et cette œuvre se plaçait dans le cadre jésuite, mais dans le cadre, un cadre mathématique, un cadre d'expérimentation, où les qualités d'expérimentateur de Galilée jouaient un rôle majeur. Mais lorsque Galilée a voulu fabriquer une lunette pour son plaisir, finalement, eh bien, étant un expérimentateur de génie, il a été capable d'inventer une méthode de polir les verres qui lui a permis de fabriquer une lunette de très haute performance. À l'époque, on pouvait, et c'est ce qui avait été fait, utiliser des verres de lunettes, je veux dire de bésicles, qui étaient fabriqués commercialement. Mais il y avait des dimensions précises, il y avait telle distance focale et pas telle autre. Et c'était pas du tout ce qu'il fallait, pour construire une lunette d'approche. Et Galilée a mis au point une méthode de polissage qui lui a permis de passer d'un grossissement 3 à un grossissement 20. Et évidemment, c'est ça qui a fait la différence. Et il a regardé le ciel, il a fait une série de découvertes. Il a fait toutes les découvertes en quelques mois, toutes les découvertes qu'il pouvait faire. Il n'y a plus de découvertes en astronomie avec une lunette jusqu'en 1660. D'un seul coup. Et pourquoi ? Parce que c'est très facile. Il a découvert les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, le fait que Saturne n'était pas... qu'il y avait quelque chose de bizarre avec Saturne. Saturne n'était pas rond. Il n'a pas vu que c'était un anneau, mais enfin, il a vu qu'il y avait quelque chose d'anormal. Enfin, tout ça a été découvert en quelques semaines. Et, naturellement, il a publié ses découvertes qui ont eu un immense retentissement. Il est devenu l'homme le plus célèbre de la chrétienté en quelques jours. Mais là où il y a eu surtout une conséquence, c'est dans le cerveau de Galilée. C'est surtout ça. Tout a découlé du fait que Galilée s'est maintenant imprégné de deux idées folles. La première, c'est que tout ce qui était dans le ciel lui appartenait. Il l'a dit lui-même. Les découvertes du ciel m'appartiennent. Donc, tous les autres gens, les autres astronomes qui voulaient faire quelque chose dans le ciel, c'était des ânes. C'est des ânes qui voulaient brouter son pré. Et donc, il les haïssait. Autre idée folle, Copernic avait raison. Pourquoi Copernic avait raison? Mais parce que tout avait l'air... C'est surtout quand il a regardé le système des satellites de Jupiter. On voit il faut vous dire que, je ne sais pas si vous avez jamais regardé les satellites de Jupiter dans une petite lunette d'enfant, c'est un spectacle absolument bouleversant. Moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, j'étais adulte et physicien, j'ai été bouleversé. Parce que vous voyez Jupiter, qui est une très belle planète, extrêmement brillante, surtout dans une lunette souvent pas de très bonne qualité, où il y a un peu d'irradiation, vous voyez beaucoup de lumière, de clarté, avec des bandes de colorées, c'est magnifique. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez les quatre satellites qui sont alignés. Et ça... Pour Galilée, ça avait deux conséquences. Première conséquence, c'était un petit système solaire en miniature. On voyait tourner autour d'un astre central, on voyait tourner d'autres astres, et donc, pourquoi est-ce que les planètes ne tourneraient pas autour du Soleil, comme Copernic l'avait dit? C'était une image qui était si évidente qu'elle se passait de démonstration. Et puis, d'autre part, Non seulement il y avait l'image, mais il y avait aussi l'idée de l'ordre. On voyait bien qu'il y avait de l'ordre dans le monde. Et donc, il fallait considérer le monde partout comme ordonné, donc simple. Et donc, il n'y avait rien de plus simple que le système de Copernic, virgule, à condition de le prendre comme l'a pris Galilée, c'est-à-dire sans aucun rapport avec le système de Copernic, avec des cercles partout.